On va lire deux textes que l'on va mettre en parallèle, si vous voulez. Le premier se trouve dans les psaumes. Psaume 69 et le verset 17. Psaume 69, verset 17. C'est une prière d'un roi, le roi David notamment, qui souvent d'ailleurs dans les psaumes a utilisé cette forme d'expression, chanter ses joies, chanter ses peines, chanter ses craintes, chanter ses soupirs, et en voici notamment un. Exauce-moi, Éternel, car ta bonté est immense, dans tes grandes compassions, tourne vers moi les regards. Amen. Le mot d'ailleurs que l'on aurait pu traduire par « dans tes grandes compassions », c'est le mot infini. « Dans tes infinies compassions, tourne vers moi le regard ». Et puis un peu plus loin, dans le livre des Lamentations de Jérémie, Lamentations de Jérémie, chapitre 3, versets 22 et 23. Lamentations de Jérémie, chapitre 3, verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Et je reprends la même expression, le sens de ce mot. Oh, que ta fidélité est infinie. La notion d'infini, c'est quelque chose qui nous dépasse, parce que normalement, ici-bas, tout est fini. Même si vous dites que certains ne sont pas bien finis, je vous assure que tout est fini. C'est comme ça. Ça ne peut pas être autrement. Remarquez qu'on essaye un peu de noyer le poisson parce qu'aujourd'hui, on nous propose des offres illimitées. Vous connaissez ça? Par exemple, téléphone. Téléphone illimité. Vous pouvez téléphoner tant que vous voulez, envoyer des SMS tant que vous voulez. Eh bien, il paraît que ce n'est pas vrai. Eh bien non, parce que l'illimité, ça n'existe pas. On vous fait croire que c'est illimité parce qu'on est parti du principe que si on prend une moyenne de temps d'appels par jour, vous multipliez ça par le nombre de jours dans le mois, donc on arrivera à une certaine quantité d'heures, donc ils vous disent illimité parce que vous n'irez pas au-delà. Mais au départ de ces fameuses offres illimitées, il y a une quinzaine d'années peut-être, certains s'étaient amusés à appeler un numéro et laisser leur téléphone toujours allumé. Ça avait fait sauter les serveurs parce qu'ils n'étaient pas préparés à ça. Et donc, ça fonctionnait plus ou moins. Mais aujourd'hui, sur beaucoup certainement de vos... vous l'avez constaté, si vous êtes bavard au téléphone, sur vos offres illimitées, téléphone fixe, vous pouvez téléphoner, ça coûtera 30 euros par mois. Mais vous vous rendez compte qu'au bout de 40-45 minutes, ça coupe. Alors vous rappelez, et puis vous avez à nouveau la personne, pas de problème. Mais ce n'est pas illimité. À des moments, la communication va couper. C'est le serveur qui la coupera, en espérant que de l'autre bout du fil, quelqu'un dira « Bon, ben, j'ai tout dit, ce n'est pas la peine que je rappelle ». Certains sont persévérants et rappellent. Donc ils se font plusieurs fois, 45 minutes, mais ce n'est pas illimité. Les SMS, c'est pareil. On vous en a offert illimité. Mais si vous regardez dans le détail, on vous dira que c'est quelques centaines maximum, parce que logiquement, vous n'êtes pas censé en faire plus. L'Internet illimité, c'est pareil. Au bout d'un moment, hop, ça ralentit. Enfin bref, l'illimité, l'infini, c'est pas dans nos cordes. On ne peut pas vous l'offrir. Personne ne pourra vous l'offrir. C'est quand même un argument de vente. C'est peut-être un peu bluffant. C'est du bluff, d'ailleurs. Mais c'est un objectif qui est inatteignable. On ne peut pas faire de l'illimité. C'est complètement impossible. Le seul qui a fait de l'illimité, c'est Dieu. Le seul qui a été capable de proposer, non pas de le vendre, mais de proposer de l'illimité, c'est Dieu. Dans les textes que nous avons lus, on a bien lu ceci, « Exauce-moi, Éternel, car précieuse est ta grâce. » C'est une autre traduction de ce fameux psaume. Mais souvenez-vous de cela, ta fidélité est infinie. Donc tu vas m'exaucer. Parce que tu es fidèle et tu le seras tout le temps. Quelqu'un disait un jour qu'en parlant d'infini, en parlant d'éternité, c'est un petit peu la même chose. Et quelqu'un disait, l'éternité, c'est long, hein, surtout vers la fin. Mais il n'y a pas de fin. Alors. Aussi loin que vous regardez, c'est l'infini. Et Dieu peut aller au-delà de tout cela. Donc vous imaginez être pris en main par quelqu'un qui vous propose l'illimité. L'illimité dans tous les sens du terme. Malgré que vous ayez des tas de contraintes, que vous serez fatigué, que vous aurez faim, que vous ne pourrez pas rester des jours et des jours sans dormir. L'illimité, mais pas dans ce domaine-là. L'illimité dans l'intérieur de votre être. Qu'est-ce qui peut vous procurer une paix sans limite? Je ne vois pas. Qui est-ce qui pourrait vous donner un amour sans limite? Difficile à trouver. Hein? Qui pourrait vous promettre des richesses illimitées, infinies? C'est encore plus improbable. Un homme qui est décédé maintenant, je ne sais pas si ce n'était pas M. Rockefeller, peut-être que ce serait lui à vérifier. On a estimé que la fortune de cet homme était de 200 milliards de dollars. Même aujourd'hui, les Bill Gates, quand il était vivant, Steve Jobs, etc., n'atteindront jamais ces sommets. Warren Buffett doit être à 100 milliards de dollars, mais jamais plus personne sur la Terre arrivera à 200 milliards de dollars. Il avait fait fortune dans le pétrole. Le fait est que c'était quand même 200 milliards. Ce n'était pas illimité. Remarquez, même si on vous en donnait un tout petit bout, vous le prendriez certainement. Ça vous contenterait largement, mais ce n'est pas le but. Le fait est que même les plus riches ont quand même trouvé des limites parce qu'on ne peut pas avaler toutes les richesses de la Terre. Ce n'est pas possible. Néanmoins, quelqu'un est capable de promettre une infinie richesse. C'est Dieu. Je trouve, par exemple, dans l'épître de Paul aux Éphésiens, un texte qui le dit très clairement, et ça va être approché du plan du salut, de l'œuvre de la grâce dont parlait Dieu il y a un instant. Il est dit ceci au chapitre 3 de la lettre qu'il a envoyée aux Éphésiens, et au verset 8, il parle de lui, « À moi qui suis le moindre de tous les croyants, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. » Et comprenez par là, infini. C'est le sens de ce mot, infini. Les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infinie, infiniment variée de Dieu. En fait, on s'aperçoit que depuis toujours, Dieu a mis en place un plan parfait. C'est pas le hold-up du siècle, mais c'est le plan parfait pour votre salut. Vous allez à votre ruine, vous allez à votre perte, vous ne le savez pas, mais la Bible vous l'enseignerait volontiers si vous lisiez ce qui y est écrit. La réalité, c'est que nous sommes tous perdus parce que on ne fait pas ce qu'il faut, on ne sait pas comment le faire et on est tellement limité que de toute manière, la mort nous atteindra et qu'adviendra-t-il de notre âme? Dieu nous rappelle que dans sa sagesse infinie, dans son plan infini, dans ce qui a été reconnu comme un mystère, qui peut comprendre tous les plans de Dieu, ça paraît incroyable, mais Dieu a décidé de vous sauver. L'histoire des hommes, il faut quand même le reconnaître, a écrit l'histoire du salut. Parce que si l'homme n'était pas pécheur, pas besoin de le sauver, mais la grâce est arrivée parce qu'on en avait besoin. Et si la grâce est venue jusqu'à nous, c'est parce que Dieu l'a permis. Un verset dans un psaume dit ceci, que souvent les rois de la terre se sont agités, souvent les rois de la terre se sont énervés, et Dieu dans le ciel regarde et sourit, disant, ça sert à quoi ? Toute cette agitation, ça sert à quoi? Tout ce tumulte parmi les nations? Dieu est au ciel, mais il sourit. Vous pouvez vous énerver contre les injustices, vous pouvez vous plaindre de tout ce qui ne fonctionne pas bien, mais regardez autour de vous, c'est notre intelligence qui a créé tous ces dysfonctionnements, c'est notre capacité à casser ce qui fonctionne bien qui fait qu'on en est arrivé là. La vérité, c'est que Dieu, dans sa sagesse, et c'est un mystère, mais dans ses richesses innombrables et infinies, il a décidé de vous donner le meilleur. Ça ne va pas être un puits de pétrole, ça ne va pas être du gaz de schiste sous votre terrain, ça ne va pas être une mine d'or pas très loin, près du cabanon que vous avez à la campagne. Ce ne sera pas comme ça, mais ça restera quand même quelque chose d'important, à savoir que Dieu a décidé d'être riche pour vous. Je ne suis pas persuadé que beaucoup aient décidé de l'être pour vous. D'ailleurs, on se demande en général si la fortune que se sont fait certains, ils ne l'ont pas fait sur le dos d'autres personnes, hein, parce que quelque part, on crée de la richesse. Mais je m'aperçois que Dieu a encore beaucoup à offrir. Et même si beaucoup pourraient dire cet après-midi que Dieu les a bénis, Dieu leur a fait du bien, rassurez-vous, il y a encore de la place pour vous. Il y a encore une bénédiction pour vous, certainement. Il y a encore la possibilité pour vous de recevoir quelque chose de Dieu. Entendez ce que l'apôtre Paul avait compris. Dieu a décidé de se révéler aux hommes et il a utilisé un moyen pour cela. Il a utilisé l'annonce, la proclamation de l'Évangile. Il a utilisé l'Église pour cela, faire connaître sa bonté envers les hommes. La première des choses que Dieu nous révélera, c'est qu'il nous aime d'un amour inconditionnel. J'oserais dire infini d'ailleurs, infini. C'est dans le même chapitre, un petit peu plus loin, l'apôtre Paul dira comme une prière, « Si seulement vous pouviez connaître quelle est la largeur, la profondeur, la hauteur, l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Je vous avoue que quelquefois il est difficile de comprendre pourquoi Jésus-Christ a fait don de sa vie. Ce que Dieu disait tout à l'heure, la mort de Jésus pour les pécheurs, d'accord, mais pour certains qui ne le seraient pas ou qui pensent ne pas l'être, quel est l'intérêt? Oh, pourtant, la Bible nous enseigne que Jésus a décidé de mourir pour l'humanité tout entière. Que l'on soit juif, que l'on soit d'origine européenne, chrétienne, que l'on soit musulman, Dieu a décidé de mourir pour tout le monde. Sauf que tout le monde ne l'entend pas comme ça. Et tout le monde ne l'accepte pas comme ça. La vérité, c'est que ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas la religion des hommes, c'est leur état. Et on est tous fait pareil. On est tous fait pareil, on est tous sortis du même moule finalement. Et on est tous humains, pécheurs, et on a besoin d'amour. On a besoin d'être aimé. Je m'aperçois là aussi que c'est un petit peu difficile de comprendre jusqu'où peut aller un amour sans retour. Je pense qu'on aime tous être aimé, mais dites-vous bien que ceux qui vous aiment espèrent que vous les aimiez aussi. Ça va dans les deux sens. Parce que sinon, l'amour va se tarir. Les bonnes intentions vont s'essouffler et puis la bonne volonté va disparaître. À un moment donné, s'il n'y a pas de retour, ça risque de s'arrêter. Et si je vous disais, parce que c'est quand même écrit là, que vous puissiez comprendre l'amour de Christ qui surpasse toute compréhension. Il y a quelque chose de fou dans l'amour de Dieu. C'est un amour totalement fou, hein. L'amour de Dieu pour des hommes qui n'en veulent pas. L'amour pour quelqu'un qui se refuse. L'amour pour quelqu'un qui vous hurle dessus, qui vous injurie, qui sort toutes sortes de blasphèmes constamment contre vous. Un peu ça va, quoi, mais tenir et résister et endurer et supporter cela et dire à quelqu'un qui ne veut pas de vous, mais je t'aime quand même, je t'aimerai jusqu'au bout. Et pour te prouver que je t'aime, je mourrai à ta place. Totalement fou, ça. C'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est ainsi fait. Il est capable d'aller au-delà de tout ce que vous pouvez comprendre et imaginer. La Bible dit que la miséricorde triomphe du jugement. Je ne suis pas sûr que vous ayez réussi à pardonner, à être plein de miséricorde pour quelqu'un qui vous a fait un mauvais coup un jour. Je ne suis pas sûr que vous ayez réussi à passer le cap. Je ne suis pas sûr que vous ayez réussi, selon la crasse qu'ils vous ont fait, selon le piège qu'ils vous ont tendu, ou la pierre qu'ils vous ont lancé, je ne suis pas sûr que vous ayez résisté et que vous ayez réussi à passer par-dessus tout cela. Vous vous rendez compte que Jésus vous aime, pourtant vous lui avez lancé des pierres, vous l'avez caillassé, vous lui avez craché au visage, vous l'avez insulté, vous vous rendez compte qu'il vous aime malgré tout cela. Et quand il regarde ce que nous avons fait pour lui, il faut bien reconnaître qu'il fallait la miséricorde qui vienne du ciel pour pardonner, pour triompher de tout jugement, et une vérité biblique reste celle-ci, c'est que l'amour sera toujours plus fort que la haine. Sur la terre, ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. C'est plutôt la haine qui l'emportera sur un geste d'amour, mais l'amour de Dieu triomphe de toute la haine des hommes. Finalement, Dieu vous tend une main cet après-midi, est-ce que vous allez la prendre ou est-ce que vous allez la refuser? Vous l'avez refusée jusqu'à aujourd'hui, qu'importe, elle est encore tendue. La main qui est tendue vers vous n'est pas très belle parce qu'elle est pleine de sang, c'est vrai. Elle n'est pas très elle est bizarre, il y a un trou dedans. On a percé les mains de Jésus, on a percé ses pieds parce qu'on l'a cloué sur une croix, mais il est ressuscité d'entre les morts, il a gardé les marques dans les mains et dans les pieds. Sur son côté, il a gardé ce que l'on appellera les stigmates de sa crucifixion, il a gardé ces choses-là. Alors la main qu'il vous tend, elle est percée, pleine de sang, mais elle est forte. Et elle est capable de vous sortir de vos difficultés, elle est capable de vous sortir de vos douleurs et de vos peines. Il y a encore quelque chose qui est infini quand on regarde au plan divin. Tout d'abord, j'insiste, il y a l'amour de Dieu qui est infini. Ses richesses n'ont pas de bornes, n'ont pas de limites. Mais les voies de Dieu sont tellement supérieures aux nôtres. Je pense qu'on s'est tous dit un jour que la voie que l'on avait choisie était la bonne. Sinon, il faudrait être fou de continuer. Donc si vous vous êtes engagé dans cette voie-là, c'est parce que vous êtes persuadé que vous avez raison. Oui ou non? Normalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis, dans l'épître de Paul aux Romains, l'apôtre Paul va s'adresser à ces chrétiens de la ville de Rome en rappelant quel est le sort de ces juifs à qui appartenaient les alliances, les héritages, les promesses de Dieu. Et il va s'interroger sur l'incrédulité de ces gens-là. Parce que qu'est-ce qu'ils étaient incrédules? C'est impressionnant. Du Messie, ils n'en ont pas voulu. De Jésus, ils n'en ont pas voulu. De la miséricorde et de la grâce, ils n'en ont pas voulu. Ils auraient davantage préféré avoir un Seigneur qui vienne avec une épée à la main, avec un bouclier, un casque sur la tête, sur un beau cheval blanc, et qui mette dehors les envahisseurs et qui devienne le roi en Israël. Ça ne s'est pas passé comme ça. L'apôtre Paul expliquera au chapitre 11 et au verset 33 que la désobéissance de ces Juifs n'a rien enlevé à la volonté de Dieu d'aimer les hommes. Malgré qu'ils aient désobéi, malgré qu'ils se soient écartés de Dieu, qu'importe, Dieu a décidé de les bénir. Mais il va rappeler une chose, ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. On s'est souvent moqué de cette expression, et on l'entend quelquefois, même dans des émissions de divertissement, même comme un sarcasme dans des émissions où on se moquera allègrement des choses de Dieu. Et l'expression viendra peut-être « les voies de Dieu sont impénétrables ». Connais cette expression. Ça vient de ce texte de l'Écriture. Les voies de Dieu sont insondables et incompréhensibles. Un texte tiré de l'Ancien Testament dira ceci, « Autant les cieux, le ciel, est élevé au-dessus de la terre, autant les pensées de Dieu sont élevées au-dessus des nôtres, et autant les voies de Dieu sont élevées, ces chemins, si vous voulez, ces directions, sont bien supérieures aux nôtres. » Quand on imagine quelque chose qui est plus haut, il y a cette volonté de faire comprendre que c'est supérieur, c'est bien au-delà, ça va au-delà de ce qu'on peut nous penser, réfléchir, imaginer, etc. Eh bien quand même, ce qu'il y a de surprenant, c'est que ces Juifs n'ont pas voulu de ce Messie. Pourtant, ils venaient leur annoncer la grâce, ils venaient leur annoncer l'éternité, ils venaient leur annoncer que des bonnes nouvelles, et ils n'en ont pas voulu, bizarre. Alors qu'ils étaient en train de gémir, en train de se plaindre, en train de se lamenter dans leurs difficultés, pourquoi les hommes cherchent-ils toujours le bonheur, à votre avis? Est-ce que c'est parce qu'ils ne l'ont toujours pas trouvé? Je pense que le jour où vous l'aurez trouvé, vous arrêterez de le chercher. Mais si vous êtes toujours en train de le chercher, c'est que vous ne l'avez pas trouvé. Eh oui, c'est évident. Vous ne l'avez pas trouvé. Pourquoi vous ne l'avez pas trouvé? Vous avez réfléchi un moment à ça? Pourquoi est-ce que l'homme apprend si rarement, si peu de ses erreurs? Pourquoi est-ce qu'il refait les mêmes erreurs? Pourquoi est-ce qu'il retombe dans les mêmes travers? C'est étonnant, ça. Pourquoi c'est toujours le même cycle qui reprend? Est-ce qu'on n'est pas capable d'apprendre la leçon? Est-ce qu'on n'est pas capable de changer d'attitude? Ben manifestement, non. On n'est pas capable de le faire. Ça vous indique que les pensées de Dieu sont quand même supérieures aux nôtres et que ses voies sont au-dessus des nôtres et qu'on est limité et Dieu, lui, n'est pas limité. Imaginez donc, il y a quelque temps de cela, un peu plus d'un an de cela, j'ai eu l'occasion de faire un baptême de l'air en avion, petit avion. On était quatre dans l'avion. C'est sympa, hein? Il y avait le pilote à côté de moi, et il y avait deux personnes derrière. Et puis, double commande, donc à un moment donné, il a voulu que je prenne les commandes. Moi, je n'ai pas voulu, hein, parce que je n'ai pas volé. Hein. Donc, je n'ai pas trop voulu. Et ce qui m'a surpris, c'est que pendant qu'on était en train de voler, alors devant vous, il n'y a rien. On a été du côté de Serre-Ponçon, le lac de Serre-Ponçon. À un moment donné, ceux qui étaient derrière lui ont posé des questions et ont volé. Je ne sais pas à combien de kilomètres heure ça peut voler, quelques centaines de kilomètres heure. Et il s'est retourné, il a commencé à discuter avec les filles derrière. Puis à un moment donné, j'ai dit, il faudrait peut-être regarder devant. Mais devant, il n'y a rien. Il n'y avait rien devant. Donc il peut se retourner tant qu'il veut. Il ne risque pas de rentrer dans une voiture. Hein. Il n'y avait rien devant. Vous voyez le réflexe ? Quand on roule, quand on marche, il faut regarder devant. Hein. Sinon, vous allez prendre un poteau, vous allez avoir un accident. Mais quand vous êtes au-dessus, il n'y a plus d'obstacle. Et je me dis que les voies de Dieu sont à ce point élevées au-dessus des nôtres qu'à un moment donné, il n'y a plus d'obstacle. Et ça peut aller très loin. Et ça peut aller très vite, et ça peut tellement bien marcher. Réfléchissez un instant. Si à chaque fois que vous avez essayé de faire quelque chose, vous avez buté sur un obstacle, du genre, je suis insatisfait, complètement désabusé, j'en ai marre de la vie, j'en ai marre de tout. Si Dieu a fait des voies droites, la Bible dit que l'homme a cherché des chemins tortueux. C'est fou, hein ? Avec Dieu, c'est tellement simple, et avec nous, c'est tellement compliqué. Élevez-vous un petit peu, mais laissez Dieu vous élever sur ces voies-là. Sur ces rails-là, si vous voulez, bien au-dessus, parce qu'il y a moins d'obstacles à suivre ce que Dieu nous demande de faire, c'est tellement mieux. La marche avec Dieu, elle est différente pour chacun d'entre nous, on est tous différents. Donc il ne va pas vous demander la même chose à vous qu'il m'a demandé à moi et vice-versa. Évidemment, chacun sa vie, mais il y a des bonnes surprises quand même. Et les bonnes surprises, elles sont nombreuses. Il y a encore plein de choses que Dieu pourrait faire pour vous. Alors j'aimerais que vous puissiez saisir ces vérités-là. Oui, les voies de Dieu sont infinies. Nettement au-dessus des nôtres, mais elles sont bonnes, ces voies-là. Et puis, il y a deux conséquences, et je terminerai avec ça. Deux conséquences, joie et paix. Dans la vie, on a besoin de ces deux éléments-là, la joie et la paix. On ne peut pas faire qu'avec ça, mais c'est quand même indispensable pour bien vivre, être joyeux. Vous aimez être joyeux ? Qui aime être malheureux ? Ça n'existe pas. On veut tous être joyeux. Pas bêta, juste joyeux, être heureux, profiter de la vie. Eh bien, la Bible nous enseigne que ça existe. Hein. C'est l'apôtre Pierre qui avait réalisé cela. Et il écrira dans sa première lettre, au chapitre 1er, au verset 8, « Lui que vous aimez, en parlant de Jésus, sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable. » Et glorieuse, infinie, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Il y a des publicités qui tournent en ce moment à la télé ou pour un engagement dans tel service, vous allez faire une économie de temps et les gens sont tout heureux, alors ils se mettent à crier. Vous avez l'autre qui a gagné au loto, qui est tout heureux, etc. Enfin bref, on peut éprouver de la joie ici-bas. On peut éprouver l'état de joie. Peut-être que vous avez été comblé à Noël et vous avez éprouvé de la joie. On vous a enfin offert ce que vous attendiez depuis si longtemps. Bref, il y a quantité de raisons d'être joyeux. Mais quand même, à un moment donné, le cadeau va s'user, le cadeau va s'abîmer. Vous allez rêver à autre chose. Parce qu'il y a une forme d'insatisfaction. On désire toujours ce qu'on n'a pas. Donc à un moment donné, ça vous manquera quand même. Il vous faudra encore autre chose. Eh bien, moi, je vous parle d'une joie qui ne dépend pas de ça. Une joie qui ne dépend plus des circonstances. Une joie qui va bien au-delà. On a des exemples dans les évangiles d'un homme malade, d'une personne en souffrance, de quelqu'un d'autre qui était totalement esclave de toutes sortes de chaînes. C'est comme s'il était totalement emprisonné. Un pauvre garçon, une enfant, une jeune fille totalement brisée par la maladie. Pas d'avenir, pas d'espérance, rien devant lui. Jésus arrive et Jésus guérit ces gens-là. Jésus délivre ces gens-là, Jésus les libère, Jésus leur offre un avenir, Jésus les rend heureux. Mais si vous pouviez entendre leur joie, certains se sont mis à sauter de joie, d'autres se sont mis à chanter leur bonheur, d'autres se sont mis à crier leur joie. Mais ça se comprend. C'est une joie qu'on aurait du mal à mettre entre quatre lignes. C'est une joie incroyable et c'est une joie qui dure. Vous savez que ce que Dieu donne, ça dure. Ce que vous achetez, ça va s'user. Mais ce que Dieu donne, ça dure. Ce que Dieu peut vous offrir, ça va au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et quand on parle de cette joie qui vient du ciel, cette joie, elle résistera à toutes les tempêtes. Hein, parce que, on l'a entendu tout à l'heure, il y a des choses des fois pas faciles. Mais la joie de Dieu, elle surpasse, elle va au-delà, elle va bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et puis la paix, parce que les choses vont ensemble, la paix de Dieu surpasse toute intelligence. On trouve cela encore dans une lettre de l'apôtre Paul, quand il écrit aux chrétiens de la ville de Philippe, il leur parlera de cette paix-là, dans un chapitre, une épître qui a été axée sur la joie, et un chapitre qui en parlera notamment. Le chapitre 4, il dira ceci, « La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La paix de Dieu qui est infinie, c'est ça que ça veut dire, la paix de Dieu qui est infinie. Alors, on va dire le défi cet après-midi, c'est soit vous restez dans un monde fini, pour de bon, c'est-à-dire avec des limites, vous les atteindrez un jour, tôt ou tard, vous serez devant un mur, vous ne pourrez pas retourner en arrière, vous serez dos au mur, vous regarderez à gauche, à droite, il y aura des limites. À un moment donné, soit des limites, soit des fossés, des vides, en disant « je ne peux pas faire le pas, là, ce n'est pas possible ». Qu'est-ce que vous préférez ? Rester dans un monde totalement limité ou accéder à cette dimension qui est éternelle, qui est infinie, qui est illimitée ? Mais le vrai illimité, la vraie notion infinie, c'est-à-dire simplement mettre sa vie entre les mains de Dieu pour qu'il s'en occupe et qu'il vous fasse grâce. Le défi, c'est ça. Qu'est-ce que vous allez choisir cet après-midi ? Soit, vous continuez comme ça, et la vie vous rappellera rapidement que, tôt ou tard, tout s'arrête. Soit vous allez vers cette destination finale, qui sera plutôt le ciel, et qui sera une joie débordante dans le ciel. Votre piété peut exister aujourd'hui, et elle se nourrira, et elle ira et elle n'aura de limite que votre foi, en somme, si vous faites confiance à Dieu, est capable de faire des choses incroyables, des choses étonnantes. Je peux vous dire, sans me tromper, qu'avec Dieu, la joie est infinie, qu'avec Dieu, l'amour est infini, qu'avec Dieu, les richesses sont infinies, qu'avec Dieu, la paix est quelque chose de totalement infini, et qu'avec Dieu, on pourrait parler de la grâce, mais on pourrait parler de sa sagesse, sont également des vertus totalement infinies. Faites-lui confiance cet après-midi. Ne restez pas fermés sur vos raisonnements, à tort ou à raison, mais la vérité, c'est que tant que on ne s'ouvre pas, on passe à côté de quelque chose de fabuleux. Et cet après-midi, mon désir, c'est que vous n'y passiez plus à côté, mais que vous soyez bénis, que Dieu vous bénisse, que cette année qui va démarrer, là, 2016, on est à la porte de 2016, que 2016 soit une belle année pour vous. Vous puissiez voir des choses s'accomplir. Vous allez certainement, dans 4 jours, souhaiter à tant de gens, ils vont vous le souhaiter, une bonne année, que tes vœux s'accomplissent, que tes désirs se réalisent. Sans Dieu, vous allez être déçus. Avec Dieu, de nouvelles portes s'ouvrent, c'est certain. De nouvelles portes s'ouvrent, et ça vaut le coup d'être vécu. J'aimerais que l'on puisse s'incliner, si vous le permettez, quelques instants, et que l'on invoque Dieu. J'aimerais prier avec vous, j'aimerais prier pour vous. Demandez au Seigneur sa grâce, sa bénédiction. Dieu est fidèle, il est capable d'agir, il veut étendre sa main sur votre vie. Souvenez-vous de ce texte que l'on a lu dans les psaumes, tellement important ce texte, où il est parlé de détresse, de difficulté, de peine, de douleur. Et la réponse toute simple, « Exauce-moi, Éternel, car ta bonté est immense, et dans ton infinie compassion, tourne vers moi tes regards. » C'est exactement la même chose que Jérémie disait. « Tes bontés ne sont pas épuisées, tes compassions ne sont pas à leur terme. Rendez-vous compte, elles se renouvellent chaque matin, que ta fidélité est grande. » Seigneur, nous venons devant toi. Nous venons devant toi parce que tu es le seul qui est capable de parler de choses éternelles. Nous ne pouvons parler que de notre vécu, de ce que nous pensons, de ce que nous imaginons. Mais à un moment donné, toute notre imagination s'arrête. On peut guère aller plus loin, mais toi, tu vas au-delà, tu vas bien au-delà. Et ma prière, c'est que tu bénisses celui qui ne te connaît pas, celle qui ne te connaît pas encore cet après-midi, et que l'œuvre de la croix que nous avons chantée tout à l'heure devienne réalité dans ses vies, dans ses cœurs. Il y a des choses que toi seul peux révéler, il y a des choses que toi seul peux faire comprendre. Et ma prière, c'est que tu te révèles ainsi. Nous comptons sur ta grâce. Merci de toucher ce cœur incrédule. Merci de bénir ce cœur assoiffé de vérité. Tu es le chemin, la vérité, la vie, Jésus. Ce que tu as fait mérite que l'on s'y attarde un instant. Ce que tu as fait mérite que l'on se pose la question, qu'ai-je fait de Jésus-Christ dans ma vie? Qu'ai-je fait de cette œuvre accomplie il y a 2000 ans? Était-ce pour moi? J'aimerais que quelqu'un s'interroge là-dessus et qu'il puisse faire le pas de la foi. Merci d'accorder ta bénédiction. Merci d'accorder ta grâce au nom de Jésus. Amen.